Nous voilà de retour. Ça vous tente de parler un petit peu de golf? Hey, c'était pas une journée facile aujourd'hui pour jouer, semble-t-il que... Ben, pas semble-t-il. Et c'est officiel qu'il plaît à pas mal d'endroits. Je suis convaincu que Dave Lévesque a réussi à jouer quelques trous. J'ai réussi à jouer une 18, moi, ce matin. Bonsoir, Dave.
Bonsoir, Mario. Comment oui, j'ai réussi à jouer 18 trous à Rivière-du-Loup, imagine.
T'es-tu sérieux en tournoi aujourd'hui?
Non, en préparation d'un tournoi cette semaine qui va débuter jeudi. Club de golf de Rivière-du-Loup, match play individuel.
Ah, ben je te souhaite la meilleure des chances. Ça a bien été pour ta ronde de préparation aujourd'hui?
Oui, jusqu'à temps que je me fasse prendre appui.
Ben là, c'est le cas de le dire et c'est à double sens, mais c'était écrit dans le ciel. On entendait gronder aujourd'hui. Moi, j'ai eu le plaisir. Je salue François Tremblay qui m'y a invité avec Normand Limoges et Normand Flajol, pardon. Et c'était très, très agréable. J'étais à Pine Grove et on entendait tonner autour, mais finalement, on s'en est sorti. Mais je suis convaincu que ceux qui ont joué plus tard en journée ont payé le prix. Dave, je voulais te parler de Rory McIlroy. Il a laissé planer des doutes quant à sa participation aux événements de fin de saison de la Coupe FedEx après sa 22e place. Là, il y a une semaine et demie au championnat de la PGA. Et au moment où l'on se parle, il frappe des balles en plein Yankee Stadium pour promouvoir les événements de la Coupe FedEx. Donc, il va jouer, mais il semble pas à 100% de ses capacités en ce moment. Là.
Non, mais ça prouve juste le pouvoir de l'argent. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est le corporatif est très puissant. Rory McIlroy qui endure des blessures aux côtes depuis l'année dernière. Les saisons de golf maintenant, malheureusement... Si on compare aux autres sports professionnels majeurs, où est-ce qu'une saison va être entre un 6 à 8 mois, 10 mois maximum, la saison de golf maintenant pour la plupart des professionnels de golf, c'est sur 12 mois, ça, tout a changé. Il n'y a plus de moyen de prendre une pause. McIlroy, qui endure des blessures aux côtes, avait laissé planer le doute, comme tu le mentionnes récemment, qu'il allait sauter le play-off, les séries éliminatoires du golf qui débutent cette semaine. Mais a annoncé aujourd'hui qu'elle allait, en fin de compte, prendre part aux séries. Puis ensuite de ça, elle allait prendre un repos puis essayer de guérir ses blessures.
C'est le champion défendant. C'est lui qui a gagné l'an passé. Cette année, bon, son classement n'est pas extraordinaire. Il est seulement 43e sur la liste de points. Et c'est le top 30 qui participe là au championnat final. Mais donc, jusqu'à quel point, à un moment donné, tu peux suivre les impératifs des corporations, de tes commanditaires, à ton propre détriment? Parce qu'il évoque du même souffle la possibilité de... Il a envisagé, en tout cas, il a pensé à voix haute, comme on dit, là, peut-être prendre une année complète de pause, mais là, il parle d'une pause hivernale de 3 à 4 mois. Une pause qui s'impose.
Oui, absolument. Regarde, Manu, le corps ne suit plus. Si on voit un petit peu l'historique de Rory McIlroy, lorsqu'il était un petit peu plus jeune, ça n'a jamais été un... Maintenant, on le voit comme un athlète. C'est un super golfeur. C'est dans la catégorie des super golfeurs, au même titre que Tiger Woods, Jason Day, McIlroy, où ce que c'est des entraînés physiquement avant chaque ronde de golf. Ils vont aller au gym, ils vont se faire traiter physiquement. Donc, c'est des super golfeurs. La plupart des golfeurs, même professionnels, peuvent pas vraiment s'identifier à ça. C'est des machines super performantes. C'est une lame à deux tranchants. La récente histoire, puis c'est Tiger Woods qui nous l'a montré, fait que le golf peut pas endurer, le corps peut pas endurer pendant de nombreuses années de pousser la machine autant que ça au niveau du corps physiquement, puis de l'élan, de s'élancer à ces vitesses-là. Donc, ce qu'on a vu dernièrement, McIlroy, lorsqu'il était plus jeune, ça n'a jamais été un athlète. Il a toujours été un petit peu dans bon point, un petit peu rond. Puis c'est juste dans les dernières années qu'il a vraiment embarqué dans les traces de Tiger Woods, où ce qu'il va transformer son corps puis devenir un super golfeur. Donc, ça vient avec un lot. Le lot, c'est que les blessures vont être beaucoup plus fréquentes et la carrière va être beaucoup plus courte.
Mais on n'a rien appris. On n'a rien appris, justement. Tu viens de mentionner puis de faire allusion à Tiger Woods. Puis c'est vrai que c'est lui qui a amené là, cette ère là, des golfeurs super athlètes puis l'entraînement physique, la musculation. Je dis pas qu'il était le seul, mais en tout cas, c'était vraiment le visage de cette nouvelle génération-là. Et quand on regarde toutes les traces de médication qu'on a retrouvées dans son corps récemment, les autres n'ont pas appris de ce surentraînement si c'est ça qui est en cause.
Est-ce qu'ils ont appris, oui ou non, je sais pas. Pour certains, c'est leur seule façon de voir de voir la gloire ou d'être au sommet, d'avoir une période de quelques années d'atteindre le sommet. C'est la seule façon.
Le prix à payer, peut-être.
C'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour certains. Puis c'est un choix. C'est un choix que les golfeurs vont faire personnellement. Puis c'est le choix que McIlroy a fait. C'est ça. On va voir si ça va être une. D'après moi, ça va être une courte carrière, très très puissante, très très intense. On peut pas. Je vois pas Rory McIlroy de continuer dans cette lignée-là pendant encore 20 ans.
Et tu fais allusion à ça. Puis je prenais une entrevue de Louis Oosthuizen qui a gagné, si ma mémoire est bonne, il a gagné le Masters, lui. Il a gagné le British Open. Et il traîne. Tu savais-tu qu'il traîne son matelas? Star Golf Channel, une entrevue qu'il donnait. Il traîne son matelas partout parce qu'il y a des gros problèmes de dos. Il y a des maux de dos de gars. Je sais pas comment ils s'organisent, mais en tout cas,
exact.
Il traîne. Ça te donne une idée là, de la nouvelle réalité des golfeurs, là, des meilleurs golfeurs au monde aujourd'hui, Dave. Hein?
Absolument, absolument. C'est le corps est à la fine pointe, c'est la précision totale, puis tous les petits détails vont engendrer des conséquences assez majeures. Donc, moi, c'est pour ça que lorsque je vois un Jordan Spieth, qui est un gars en forme, mais c'est pas dans la catégorie des super golfeurs ultra entraînés. Je vois un Jordan Spieth, puis je me dis que lui, on va le voir encore pendant de nombreuses années, 20, 25 ans, 30 ans encore.
Ah, ça, c'est intéressant. Et c'est parce que, Oosthuizen, juste pour ajouter à ce que tu disais tout à l'heure, que les carrières, ça va être peut-être de la gloire, mais sur une plus courte période, il disait dans cette entrevue, c'était diffusé à l'émission Faherty, l'émission d'entrevue, que lui, il voit pas de gars là continuer de gagner ou gagner là sur une base régulière. Ça pourrait peut-être arriver là, ici et là, mais au-delà de la quarantaine. Alors, tu sais, quand on se souvient de Jack Nicklaus, bon, on se souvient de c'est Tom Watson qui a failli gagner, ça c'est ancré dans nos têtes, qui était dans la jeune soixantaine quand il est passé à un coup ou deux de gagner le British Open. Ça va être des coups isolés. Jack Nicklaus a gagné son dernier majeur, encore une fois, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'il avait 46 ou 48. Je pense que c'est 46.
Ouais.
Déjà, c'était rare, mais là, il semble que ça va devenir presque virtuellement impossible.
Exact. C'est une game de puissance maintenant. C'est un jeu de puissance, le golf. C'est des athlètes ultra entraînés, puis c'est un peu le comme on disait tantôt là, c'est la gloire instantanée, puis c'est de le faire présentement au sacrifice d'une longue carrière. Donc il va toujours maintenant en avoir plusieurs qui vont accepter de faire le sacrifice, qui vont leur donner un résultat à court terme. Mais vu qu'il y en a toujours qui sont prêts à faire le sacrifice, ceux qui misent sur la longévité n'auront jamais accès à la gloire. Là, ils vont toujours rester un peu en deuxième plan. Donc, c'est un peu pour ça là, que, un peu comme tu disais, là, les commentaires de Oosthuizen.
Ouais, c'est tellement intéressant. Est-ce que tu aimes ce que le golf est devenu par rapport à la place que prend la puissance maintenant du golfeur, Dave?
Plus ou moins, non. On a perdu une certaine créativité, une certaine... un certain toucher, un certain maniement de la balle, contrôle de la balle. Maintenant, c'est la plupart des jeunes qui sortent des collèges se ferment les yeux, frappent la balle le plus fort qu'ils peuvent, puis à partir de là, essayer de se rendre au trou en le moins de coups possible. Les terrains qui ont été construits dans les dernières années accommodent ce type de jeu-là où ce que les terrains sont très longs, plus larges, vont laisser justement le jeu de puissance dominer. Et il reste encore juste quelques terrains sur le PGA Tour où c'est vraiment des joueurs qui vont contrôler leur trajectoire de balle, qui vont pouvoir faire des courbes soit à droite ou à gauche, contrôler ça, la hauteur des balles. Il reste très peu de terrains sur le PGA Tour maintenant qui permettent à ces types de joueurs-là de bien performer. C'est ça, c'est dans l'ensemble du package. C'est ce que les gens veulent voir, j'imagine. C'est le marketing, c'est que le PGA Tour ont décidé d'apporter à la télévision.
Les fabricants également, oserais-je ajouter dans la conversation, je veux dire, comment tu fais pour vendre un nouveau modèle de driver s'il ne fera pas 10 ou 15 verges plus loin que celui de l'année d'avant, puis tu en as un par année pendant... Tu sais, ça aussi, ça doit mettre une pression sur toute l'industrie.
Absolument. Il y a de beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs. Jack Nicklaus est un des plus... vocal à ce niveau-là, du fait qu'il aimerait que la balle, on ramène une balle beaucoup moins performante au niveau de la distance sur le PGA Tour. Donc, juste pour les professionnels de compétition, qu'il y ait la balle unique, tout le monde utilise la même balle, et puis qui va beaucoup moins loin, donc qui vont favoriser ceux qui vont pouvoir avoir plus de contrôle sur la balle, les courbes, comme je disais tantôt, là, à droite ou à gauche. Mais je vois peu ça arriver à court ou à moyen terme.
Petite parenthèse en finissant, tu as sûrement déjà joué, en tout cas, j'ai l'impression que tu as déjà joué avec Glen Abbey en Ontario, toi, Dave?
Oui, je l'ai joué dans les dernières années.
Là, tu sais que c'est un terrain qu'on veut fermer, on veut y aller d'un développement immobilier. Puis là, il y a eu un vote du conseil municipal de l'endroit pour que ça soit désigné une espèce de lieu historique de façon à le protéger. Là, je pense que la formule, c'est un lieu qui ferait partie de l'héritage canadien. Est-ce que pour toi qui l'as joué, ce serait vraiment un sacrilège de bâtir quelque chose par-dessus ça? Quel souvenir tu gardes de ce terrain-là ou pas tant que ça?
Là, tu me demandes mon opinion personnelle.
Oui, oui.
OK. C'est un terrain que j'aime peu. C'est un terrain qui est peu aimé aussi par les joueurs du Tour, du PGA Tour. C'est un des facteurs qui a contribué à la descente aux enfers du Canadian Open, le prestige qu'il avait, on remonte il y a 30 ans et avant ça. Ça fait partie de ça. C'est un terrain qui est peu... Tout ça étant dit, c'est un terrain qui est pour Golf Canada, ceux qui sont les promoteurs de l'événement du Canadian Open, c'est une vache à lait. C'était très, très bien situé, qui facilite toutes les tentes corporatives, tout l'accès aux spectateurs. Donc, c'est l'emplacement parfait. Puis c'est un terrain décent qui offre quand même un bon défi pour les joueurs. Mais si moi, personnellement, tu me demandes si je vais être triste que les prévisions, c'est en 2023 à peu près que le terrain serait rasé pour les maisons. Non, je serais pas triste, ça m'empêchera pas de dormir.
Et si je te demandais en terminant, si toi, Dave Lévesque, t'étais le commissaire du golf canadien, là, puis t'avais à choisir le terrain, et je t'oblige pas à nommer un terrain québécois, là, tu peux peut-être en nommer un, mais je veux dire, ça serait quoi le terrain qui, pour toi, permettrait de révéler le meilleur golfeur au pays?
Mon Dieu. J'aimerais voir un terrain qui demande l'ensemble des bâtons, qui demande d'être énormément patient, qui demande d'être courageux, qui demande de te surpasser. Il y a peu de terrains au Canada. Le terrain, moi, qui me vient en tête, qui regroupe le meilleur test possible pour un golfeur, c'est un terrain à Woodbridge, dans le coin de Toronto, qui s'appelle The National. C'est le nom du terrain. C'est un terrain qui a déjà eu les Canadian Open dans les années, je vais dire, 70. Je pense que Lee Trevino est le dernier vainqueur à ce terrain-là, puis il disait que c'est un des terrains les plus difficiles qu'il avait jamais affronté. Pour moi, ça serait le test ultime au Canada, ça serait ce parcours-là.
Puis si je te demande de m'en nommer un au Québec sans que tu te fasses d'ennemis, ce serait lequel?
Moi, j'adore mon coup de cœur. Je sais qu'il y a peu de gens qui ont la chance de parcourir les allées de ce club-là. Mon coup de cœur au Québec, c'est Mont-Bruno, tout près de Montréal. C'est un terrain quand même assez privé. Tu dois être invité par un membre. Mais c'est un terrain qui offre une pureté de jeu. Tu t'ennuies pas. Chaque trou est une peinture différente. Ça coule bien. Les conditions, c'est sûr, sont impeccables avec tout l'ensemble. Pour l'ensemble de l'œuvre, là, moi, mon coup de cœur au Québec, c'est Mont-Bruno.
Dave, merci pour ces belles minutes de radio à parler de golf. Toujours intéressant. Et puis, bonne chance cette semaine à ton match play.
Merci beaucoup, Mario. Ça fait plaisir.
À très bientôt, Dave Lévesque, le professionnel en titre du golf Château-Beaumont, bien sûr. Merci, Dave. Sur ce, déjà, 19h32, dans quelques instants, on va faire une... Ah non, pas tout de suite. Il faut absolument, parce que là, Louise va me chicaner. Vous connaissez pas Louise, vous autres, hein? Louise Chenier, salut Louise. Je sais pas si elle écoute ce soir, mais j'ai une promotion dont il faut absolument que je vous parle. C'est que le 10 septembre prochain, l'élite mondiale du cyclisme va briller sous vos yeux. C'est une chance unique de voir en pleine action les plus grands coureurs de la planète. Vous le savez maintenant, c'est installé là, dans notre imaginaire, ces événements-là, les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Donc, dans le cadre du Grand Prix cycliste de Montréal, vous courez la chance de gagner un certificat cadeau Louis Garneau d'une valeur de 100 $, échangeable sur le site de garneau.com. Pour participer, ben, vous répondez tout simplement à la question. Concours sur le 98.5fm.ca et vous vous y inscrivez. Et on a un gagnant ce soir pendant que vous allez aller vous inscrire pour la question qui va vous permettre de gagner demain. Et notre gagnant ce soir, qui obtient donc une carte cadeau de 100 $ échangeable sur garneau.com, c'est Jocelyn Arsenault de La Prairie. Félicitations, Jocelyn. Merci d'être à l'écoute et de t'être inscrit. Dans quelques instants, on s'en va à Fenway Park où nous attend Alex Agostino.